sur Saône, comme l'on disait en 1815. Mon général, puisque c'est vous qui avez le privilège de transmettre le flambeau de la Légion d'honneur dans le département de Saône-et-Loire, Madame l'archiviste en chef des archives de la ville de Chalon-sur-Saône, et vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de votre présence. Très honnêtement, je ne pensais pas avoir devant moi un aéropage aussi nombreux, mais soyez-en remerciés. C'est avec un réel plaisir que j'ai répondu à l'appel du comité d'organisation pour venir vous présenter la Légion d'honneur sous le Premier Empire. C'est une création napoléonienne qui a un peu plus de 200 ans, 211 ans pour être précis aujourd'hui, enfin 213 ans puisqu'elle est née en 1802. Mais c'est une décoration qui a subi, bien sûr, des évolutions. Je vais vous en parler. Depuis l'Antiquité romaine, il était coutume de décorer et de remettre des attributs aux soldats qui s'étaient distingués lors des campagnes militaires. On leur remettait, en règle générale, des couronnes de laurier, et puis cela ne perdurait pas au-delà de la remise. Après, le soldat, bien sûr, était considéré comme valeureux, mais il n'y avait pas de signe tangible qui permettait de le reconnaître. Il va falloir attendre la monarchie en France pour que l'on ait une décoration qui intervienne et qui soit la première décoration de notre pays. Qui est l'Ordre du Saint-Esprit. Ordre du Saint-Esprit, créé en 1569 et qui a perduré jusqu'à la fin de la monarchie.
On vous voit bien, il y a le projecteur.
Pardon ?
Oui, là, mettez-vous à la lumière. Voilà.
Bon, écoutez, si vous préférez, si vous voyez mieux, tant mieux. Alors, donc, l'Ordre du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu que cette décoration. Il y en a eu, après, une suivante, qui est l'Ordre de Saint-Louis. Et vous remarquez, petit parallèle, l'Ordre de Saint-Louis est une décoration qui a également le ruban rouge. Mais Saint-Louis était une décoration créée par Louis XIV, mais qui ne pouvait être donnée qu'aux officiers catholiques. Ce qui voulait dire que les officiers protestants ne pouvaient pas avoir de décoration. C'est la raison pour laquelle une autre décoration va être donnée avec un ruban bleu qui est la médaille militaire et qui sera réservée aux officiers protestants de l'Ancien Régime. Bien, la Révolution française dans tout ça. 14 juillet 1789, prise de la Bastille. J'en profite pour vous dire que la fête nationale, ça n'est pas le 14 juillet 1789 que l'on célèbre, mais le 14 juillet 1790 qui est la fête de la Fédération. Mais beaucoup de Français pensent que c'est 14 juillet 89. Donc la Révolution française, avec les différentes assemblées qui vont intervenir, va supprimer les ordres monarchiques et non seulement elle les supprime, mais vous aviez l'obligation de les restituer. Sinon, pendant le régime de la terreur, vous étiez considéré comme un ci-devant. Et les ci-devants, eh bien, on utilisait ce qu'on appelait à l'époque le rasoir national comme système de sanction. Malgré tout, comme il y a eu quelques personnes qui se sont distinguées pendant la prise de la Bastille, avec les critères qui sont naturellement ceux des révolutionnaires, on va leur remettre la médaille des vainqueurs de la Bastille. Mais c'est quelque chose de relativement anecdotique et ça n'a pas, aujourd'hui, enfin à l'époque, l'importance que pouvaient avoir même les ordres de l'Ancien Régime. Il va y avoir également, pour les combattants, une autre distinction. En 93, citoyens, je connais à Pyongyang des gens qui s'endorment. Et ça coûte très cher. Donc vous allez avoir également, pour les guerres de la Révolution, une autre décoration, mais ça n'est pas non plus quelque chose qui va perdurer. Vous savez que la France va être en guerre depuis le 20 avril 1792 et il va falloir attendre la paix générale avec l'Autriche et l'Angleterre en 1802 pour que, enfin, la France soit en paix. Et c'est à ce moment-là que Bonaparte va écrire à tous les souverains d'Europe pour leur proposer la paix. Il serait peut-être intéressant de faire rentrer les deux personnes qui étaient dehors, qui donnaient des petits papiers pour... Non, peut-être pas, non. Je leur ferai un petit cours après. Donc, il va y avoir ensuite des combats. Et dans ces combats, il faut bien récompenser et honorer les gens qui se sont distingués. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des armes d'honneur. Alors, les armes d'honneur, ce seront des fusils, ce seront des sabres briquets pour l'infanterie, ce seront des haches d'abordage pour les marins, ce seront des grenades pour les artilleurs, ce seront même des baguettes d'honneur pour les tambours. Il y a tout un ensemble d'armes d'honneur qui vont être distribuées. Celle-ci, c'est un sabre d'honneur qui a été donné au capitaine Cotillon qui est né à Nuit-Saint-Georges. Ça fait partie des armes qui sont excessivement rares, remarquables et qui atteignent des prix excessivement conséquents en salle des ventes. Bonaparte prend le pouvoir le 18 Brumaire, entendez par là, fin novembre 1799. Il devient premier consul de la République française. En fait, on ne savait pas tellement comment on allait faire, puisqu'il y avait trois consuls. Il y a eu Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Mais qui allait être pour la première fois le premier consul? Et Talleyrand, naturellement, qui jouait la carte Bonaparte, se lève et dit, mais par ordre alphabétique. Donc, par ordre alphabétique, il n'y a eu strictement aucun problème. Et Bonaparte s'est donc retrouvé premier consul de la République française, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, ce qui faisait dire à l'époque aux latinistes, madame, vous avez compris, n'aurait rien compris parce que elle, le latin, c'est pas sa tasse de thé. On les appelait hic, ec, hoc, le masculin, le féminin, le neutre. Pourquoi le féminin? Il aurait été très copain de la Noé à l'époque, bref. Et à cette époque-là, maintenant, il faut penser à mettre une décoration qui soit quelque chose de réel et d'emblématique. Bonaparte, à cette époque-là, est premier consul de la République. Et il désire que les soldats qui se sont distingués, mais également que les civils qui se sont distingués, soit remarqué par une décoration. Il est évident que pour les militaires, ça passe très mal, à commencer par le monsieur que vous avez ici, qui est un général et qui s'appelle Mathieu Dumas. Et le général Mathieu Dumas souhaite que la Légion d'honneur ne soit remise qu'aux militaires. Mais Bonaparte ne l'entend pas ainsi. Il dit au général Mathieu Dumas, « Général, si je donnais une décoration pour les civils et une décoration pour les militaires, je ferai deux ordres dans la nation, alors qu'il n'y a qu'une seule nation. » Et c'est la raison pour laquelle Bonaparte va décider que la Légion d'honneur, comme le disait M. le maire, récompensera les vertus civiles et militaires. Le brave doit pouvoir dire « j'ai la même décoration que le savant ». Et le savant doit pouvoir dire « j'ai la même décoration que celui qui a versé son sang pour la patrie, qui est brave ». Donc, on mettait ensemble, on ne divisait pas, la Révolution avait fait suffisamment de dégâts, l'idée maintenant était de rassembler les Français. Donc, il va y avoir un vote devant les chambres, à l'époque le Conseil d'État, le Sénat, le corps législatif, alors, je vous passe les chiffres, ça ne présenterait pas d'intérêt. Et on va mettre des petites boules noires, des petites boules blanches. Les boules noires, je vote contre. Les boules blanches, je vote pour. Et il va y avoir, dans les trois chambres, une majorité qui va sortir et qui va être une majorité qui va conforter le souhait de Bonaparte. Autrement dit, la Légion d'honneur voit effectivement le jour par décret du 29 Floréal en 10, en calendrier grégorien, 19 mai 1802. Donc, c'est une création de l'époque du consulat, à l'époque où Bonaparte est premier consul. Et voilà la première décoration. Alors, on a demandé à un monsieur que vous connaissez tous, dans la peinture, qui s'appelle David, de faire un projet. Et David avait fait un travail avec beaucoup de feuillage, etc. Et Napoléon lui avait dit, mais non, on n'y voit rien du tout, élaguez-moi tout ça, je veux quelque chose de plus simple. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir un modèle. Mais comme la décoration ne sera distribuée que sous l'Empire pour la première fois, bien qu'elle ait été créée en 1802, elle ne sera donnée que le 14 juillet 1804. Première remise aux Invalides, deuxième remise au camp de Boulogne. Donc, ensuite, sous l'Empire, vous allez trouver écrit « Napoléon, empereur des Français ». Et comme à l'époque où on devait faire cette Légion d'honneur, Napoléon n'était pas empereur. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de couronne impériale entre le sommet au niveau de l'anneau et du ruban. Après, vous verrez sur les autres modèles, il va y avoir la couronne impériale qui va venir, et aujourd'hui, ce sont les feuilles de chêne, et, enfin, des feuillages qui interviennent. Donc, voilà la Légion d'honneur dans son premier modèle. C'est le modèle le plus rare. Si vous en trouvez une dans les archives de famille, sachez que ça se négocie, un modèle comme cela, aux environs de 3-4 000 euros. C'est quelque chose de rare. Voilà les discussions qui ont lieu ici au Conseil d'État. Vous voyez tout de suite un personnage un petit peu en contrebas. Là, le personnage que vous voyez, c'est Talleyrand, futur ministre des Affaires étrangères, qui intervenait, et Bonaparte, eh bien, participait aux séances législatives au Conseil d'État. Vous savez qu'entre autres, dans son œuvre, il y a le Code civil, entre autres. Ce que j'ai recensé dans le petit livre sur l'œuvre de paix de Napoléon. Ah, ben comme ça, vous pouvez faire la sieste. Merci. Il y a 200 œuvres créées par Napoléon qui sont toujours en application aujourd'hui. Je fais juste une parenthèse avec des choses étonnantes. Si je vous dis par exemple que l'idée du codex des pharmaciens, c'est Napoléon. L'internat des hôpitaux, c'est Napoléon. La réforme des pharmaciens, la vaccination obligatoire, etc. Bon, enfin bref, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Et lors des réunions du Conseil d'État, à l'époque, le Conseil d'État, ce n'était pas une autorité administrative comme aujourd'hui. C'était l'autorité qui préparait les textes de loi. Ce n'était pas tout à fait le même rôle. Et le premier grand maître de la Légion d'honneur va être ce personnage qui est un zoologiste, c'est Lacépède. Lacépède, et vous voyez que c'est un civil. Depuis, ce sont toujours des militaires. Il serait peut-être bon qu'un jour, un civil devienne grand officier, enfin, grand maître de la Légion d'honneur. Ça serait, après tout, pourquoi pas, quelque chose d'assez logique. Donc, premier grand chancelier de la Légion d'honneur. Et l'installation de la Légion d'honneur se fait à Paris, dans un palais qui est l'hôtel de Salme. Les Salmes étaient une famille richissime, dont les membres ont fait partie de la Confédération du Rhin, autrement dit l'Allemagne dans sa réorganisation. Il y avait deux familles, les Salm-Salm, les Salm-Kirbourg, et Joséphine était très amie avec les Salm-Kirbourg parce qu'elle avait été faite détenue à la prison du Temple, à la conciergerie, en même temps que la princesse de Salm. Donc elles avaient lié connaissance, et c'est comme ça que la principauté de Salm est entrée dans la Confédération du Rhin. Et donc aujourd'hui, c'est pour vous situer, vous avez l'entrée principale, mais ce n'est pas celle-ci, l'entrée principale c'est là, et de l'autre côté, vous traversez la rue et vous avez le musée d'Orsay.
Utilisez le pointeur.
Vous avez votre pointeur, monsieur.
Pardon ?
C'est un pointeur, en fait.
Ah. Alors attendez, est-ce que c'est... Je ne sais pas, parce que le curseur est là-haut. Bon, enfin bref, peu importe. Et il faut appuyer sur... Ah, sur le rouge, merci. Oui, enfin, sur le rouge, à Chalon-sur-Saône, on appuie que sur le rouge, de toute façon. Oui, oui, oui. Vous savez, une anecdote, quand Napoléon est rentré, est passé au retour de l'île d'Elbe, il s'est arrêté à Mercurey. Il s'est arrêté à Mercurey, et il y a un vigneron qui lui fait goûter son vin. Et Napoléon lui dit, « Oh, mais il est bon. » Le viticulteur lui dit, « Oh, mais j'en ai du bien meilleur dans ma cave. » Mais l'empereur lui fait, « Mais alors, vous le sortez quand celui-là ? Oh, mais pour les grandes occasions, uniquement. » Bon. Alors, voilà donc le palais de la Légion d'honneur, avec des cohortes. Il y a 18 cohortes de la Légion d'honneur. Pour la région Bourgogne, c'est la ville de Dijon, palais des États, des anciens ducs de Bourgogne, qui est le siège de la cohorte de la Légion d'honneur. Au niveau de l'organisation. Alors, voilà donc le modèle, le premier modèle. Bon, c'est une autre version parce que vous voyez que les centres varient au niveau des... Parce qu'il y a eu plusieurs fabricants. Donc, chaque fabricant a des modèles un peu différents. Et voici la première remise de la Légion d'honneur. Et vous voyez ici, eh bien, vous avez un invalide. Hein, il lui manque le bras droit. Et Napoléon est en train de lui mettre la Légion d'honneur. Vous avez également les corps constitués de l'État, ici. Vous avez les grands chanceliers, vous avez les généraux, etc., etc., qui sont là, et des officiers, naturellement, qui sont excessivement heureux d'avoir obtenu cette Légion d'honneur. À l'époque, ça rapportait quelque argent. Aujourd'hui, ça ne rapporte plus rien. C'est normal, il n'y a plus rien dans les caisses de l'État. Alors, on ne peut pas demander ça au gouvernement, il ne manquerait plus que ça. Un des premiers à avoir eu la Légion d'honneur, également, un bourguignon, mais cette fois-ci du département de Lyon, c'est le capitaine Coignet, le célèbre capitaine Coignet, qui a eu la Légion d'honneur et qui raconte dans ses mémoires les conditions dans lesquelles il l'a eu, que tout le monde le regardait, etc. C'est vrai que c'était quelque chose de complètement novateur. Par contre, le monsieur que vous voyez ici, c'est le maréchal Augereau, duc de Castiglione. Donc Augereau, duc de Castiglione, lui, était anti-religieux et anti-décoration. Mais ça ne l'a pas empêché de supplier Napoléon, de lui redonner son bâton de maréchal en 1815, etc., et d'être couvert de décorations avec les avantages financiers que cela entraînait. Mais pour vous dire que même dans l'armée, il y a eu des gens qui, au départ, n'étaient pas forcément des gens qui étaient pour ce genre de choses, parce que pour certains, c'était un retour à l'ancien régime. Et les gens ne supportaient pas, certains ne supportaient pas. Et puis, bon, ils se sont habitués. Voilà le commandant de la 18e cohorte de Légion d'honneur, né également dans Lyon, c'est le maréchal Davout, Louis Davout, duc d'Auerstadt, prince d'Eckmühl. On peut le dire, le meilleur maréchal de Napoléon. Ce monsieur-là, il n'a jamais été vaincu sur un champ de bataille, ce qui n'est pas le cas de tous les autres maréchaux de Napoléon. Et la deuxième décoration va se dérouler à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, dans le vallon de Terlingdom, et vous avez ici le trône impérial, et vous avez autour 100 000 hommes qui sont rangés, le public qui est derrière, et pour l'anecdote, la division qui est ici est commandée par un général qui s'appelle Bisson, qui a une caractéristique particulière, il boit entre 18 et 25 bouteilles de vin par jour. Le fait est rapporté par plusieurs mémorialistes, et puis entre autres par Brillat-Savarin, etc., etc. C'est un personnage fort en coutume. Et voilà donc le vallon de Terlingdom, une sorte d'amphithéâtre naturel, où s'est déroulée cette remise de la Légion d'honneur. Il y a une stèle qui a été posée, première remise de la Légion d'honneur. En fait, ce n'est pas tout à fait la première remise. Attendez, parce que si on travaille tous les deux en même temps... Ah, bon. Alors, en fait, ce n'est pas la première, c'est la deuxième remise. La première, je vous l'ai dit, c'est aux Invalides. La deuxième, mais Boulogne-sur-Mer a tiré un petit peu la couverture à eux, et puis ont préféré choisir ce type de monument. Alors, voilà toutes les troupes qui prêtent serment. Pour l'anecdote, ce qui faisait rire les soldats, on était allé au musée du Louvre et on avait pris le trône de Dagobert. Alors, avec toute la chanson qui va avec, il y avait le casque et le bouclier de Bayard, dans lequel on avait posé les légions d'honneur. On appelait les récipiendaires qui venaient, qui montaient les marches, et ils étaient décorés. C'était quelque chose de très solennel. Voilà donc l'armée qui est rangée ici en ordre en demi-lune, si vous voulez. Et puis alors, au loin, la marine anglaise qui est là et puis qui essaye de perturber la manifestation. Enfin, depuis Jeanne d'Arc, il nous embête la vie, hein. C'est pas étonnant. Mais qui essaye de perturber la manifestation, mais bon, ça ne portera pas à problème. Autre monument qui se trouve là-bas, toujours pareil, ça c'est un monument plus général sur la Légion d'honneur, donc pour rappeler, et voyez donc que les troupes étaient en ordre de bataille ici, dans ce vallon naturel. Il y a dans la Légion d'honneur 3 grades et 2 dignités. La première, c'est chevalier de la Légion d'honneur. La deuxième, c'est officier. La troisième, c'est commandant de la Légion d'honneur. Le terme commandant a été remplacé après par le terme commandeur. Il y a après 2 dignités, grand officier de la Légion d'honneur et enfin grand croix de la Légion d'honneur. Donc les deux premières se portent à gauche sur la poitrine avec ruban rouge. Il n'y a pas de... Vous les connaissez toutes. L'autre commandant, aujourd'hui commandeur, se porte en cravate, c'est ce qu'on appelle la cravate. Et puis ensuite, les autres, eh bien, grand officier, c'est la plaque, et grand croix, c'est la plaque, mais avec l'écharpe rouge. Ça, c'est un modèle qui a été, c'est étonnant, c'est dans une collection privée, elle a été brodée, fabriquée au Faubourg Maria-Hilfestrasse à Vienne. Vous voyez, elle a été fabriquée en Autriche. C'est quelque chose d'assez rare, mais imaginez bien qu'un général qui venait de recevoir ce type de décoration, son premier souci, c'était immédiatement de l'arborer et d'aller voir le premier brodeur de la ville de Vienne, parce qu'il était là-bas, pour se faire faire sa décoration. On voulait tout de suite montrer qu'on venait d'être fait grand officier ou grand croix de la Légion d'honneur. Maintenant, il y avait tout un processus. Comment Napoléon donnait-il la Légion d'honneur? Alors, en fait, il n'y a pas de règles très précises. Il y a des us, des coutumes. En règle générale, les capitaines de compagnie étaient sollicités pour désigner dans leur compagnie tel homme, tel ou tel sous-officier qui mériterait d'avoir la Légion d'honneur. Ensuite, le dossier passait chez le chef d'état-major de la division, passer ensuite à l'état-major général chez le maréchal Berthier, et puis tout cela était en décision finale au niveau de l'empereur. Mais l'empereur donnait aussi bien la Légion d'honneur à un maréchal, à un civil, qu'à un simple soldat. Et vous imaginez l'impact dans la tête d'un paysan du fin fond de la Bresse, qui venait de recevoir la Légion d'honneur donnée des mains de l'empereur. Mais 50 ans après, comme disait M. le maire tout à l'heure, ou 100 ans après, on continuait d'en parler dans la famille. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un impact, il y avait une communion du chef de l'État avec la nation qui était fondamentale à une époque où la communication n'avait strictement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les moyens de communication audiovisuelle ou téléphonique que nous avons. Donc ici, vous avez un général en grande tenue qui est en train de passer en revue des chasseurs du 1er régiment de chasseurs à cheval, avec ici, ça doit être un lieutenant, non, un capitaine, 3 galons sur les cuisses, un capitaine, un maréchal des logis, un maréchal des logis chef de la compagnie d'élite, et puis ici, un maréchal des logis avec 2 chevrons d'ancienneté, c'est un monsieur qui a déjà 15 ans de campagne. Et donc, ils vont recevoir, et là, ce sont les aides de camp du général, c'est un général donc qui remet les décorations, et vous voyez qu'ici, ça se fait devant le front des troupes.
Donc il y a un sentiment de reconnaissance excessivement fort, un sentiment de prestige de la part de ceux qui reçoivent cette décoration, parce que sous l'Empire, il y aura en 10 ans 48 000 légions d'honneur qui vont être distribuées, et en 1815, il restera encore 36 000 de ces récipiendaires qui seront en vie. Voilà ici également un autre document qui représente Napoléon en train de remettre ici la décoration à un dragon, et ici un dragon de compagnie d'élite. Alors pareil, des gens qui se sont distingués, vous voyez ici un brave qui a été blessé, et puis on lui donne la Légion d'honneur. Alors vous pouvez la voir en vous distinguant sur un champ de bataille, vous allez me dire comment. Eh bien en règle générale, il y a quand même des critères assez spécifiques. Un soldat qui prend un drapeau à l'ennemi aura la Légion d'honneur. Un soldat qui s'empare d'une pièce ou de deux pièces d'artillerie aura également la Légion d'honneur. Ou alors après, pour des faits militaires excessivement importants, la prise d'une position ou la défense d'une position insoutenable, etc. Et là, il va y avoir un choix. L'empereur va dire « Sortez-moi l'officier et trois soldats qui se sont distingués dans cette affaire ». Alors après, conciliabule au niveau des officiers qui discutent entre eux en disant « c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel ». On les fait sortir et là après, eh bien, ils sont décorés de la Légion d'honneur. Vous avez ici Marcelin Marbot, qui deviendra général de division, qui raconte un petit peu ses campagnes. C'est un mémorialiste assez célèbre du Premier Empire, qui raconte comment les Légions d'honneur, comment il a eu la Légion d'honneur, dans quelles circonstances. Ça entraînait naturellement quelques libations, mais enfin ça c'était assez compréhensible. Il pouvait y avoir quelques repas qui pouvaient suivre, mais c'était assez classique à l'époque. Ça se fait encore aujourd'hui, alors vous pensez bien qu'à cette époque-là, c'était quelque chose de plus conséquent. On voit ici un uniforme de capitaine, c'est à cause des épaulettes, du 1er régiment d'infanterie de ligne, avec une Légion d'honneur, mais vous voyez par contre ici la rosette d'officier. Donc ici, c'est un officier de la Légion d'honneur. S'il était chevalier, ce serait la même, mais il n'y aurait pas la rosette. Donc, petit signe distinctif. Ici, pareil, c'est une tenue de chasseur à cheval, et vous avez ici par contre le chevalier, et vous voyez ici, on est sous l'Empire, et vous avez la décoration là avec la couronne. Alors, petit détail, si vous voyez une Légion d'honneur passer, il y a un critère qui vous permet tout de suite de dire si c'est Premier Empire ou Second Empire. Si sur la couronne il y a des petits aigles, c'est Second Empire. Si sur la couronne il y a des feuilles d'acanthe, c'est Premier Empire. La différence, un zéro de plus au niveau de l'achat. Maintenant, Napoléon abdique en 1814. Louis XVIII se retrouve devant cette décoration parce que Louis XVIII va quand même avoir la sagesse de ne pas remettre des ordres anciens. Donc, il va conserver la Légion d'honneur, mais ça l'ennuie qu'il y ait la Légion d'honneur en France avec le profil de Napoléon Ier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un monarque illustre issu de la famille des Bourbons, autrement dit, le profil du bon roi Henri. Et vous avez ici le profil d'Henri IV sur la Légion d'honneur. Par contre, sur la couronne, vous n'avez plus les feuilles d'acanthe, vous avez les petites fleurs de lys qui sont les symboles de la royauté. Mais autrement, c'est sensiblement le même modèle. Là, on revient au premier modèle pour que vous ayez bien dans la tête ce qu'il va y avoir après, parce qu'il va y avoir des modifications, la suivante. Et là, on arrive après avec le troisième, d'abord le deuxième modèle. Le premier modèle, vous l'avez vu, il est sans couronne. Le deuxième modèle, le voilà, avec une couronne, et la couronne, elle est soudée ici. Et ça n'a pas duré longtemps parce que les couronnes se cassaient. La soudure se cassait et ça ne tenait plus. Donc immédiatement après, on a fait un système articulé, central, avec la couronne. Vous voyez les petites feuilles d'acanthe, comme je vous disais tout à l'heure. Mais par contre ça, c'est le troisième type. Donc voilà également une ici, légèrement différente. Et ensuite, vous allez voir, là, on est toujours dans le troisième type. Et là, on entre dans le quatrième type, quatrième, cinquième, sixième. Et vous voyez qu'ici, on voit apparaître des petites boules au sommet de chacune des petites parties qui sont émaillées ici. Donc ça, on entre dans les modèles plus tardifs, mais c'est toujours, on est toujours sous le premier empire. Voilà ici un officier, c'est un officier qui est né en Côte d'Or, pas très loin de Beaune, puis bon, portrait dans la famille, donc officier de la Légion d'honneur, ici naturellement, c'est un capitaine, ici, un chef de bataillon. Voilà ici un autre officier de la garde impériale qui porte ici la Légion d'honneur, toujours pareil. Les gens étaient excessivement fiers de porter ce type. C'était une forme de reconnaissance parce que dans l'armée, à cette époque-là, les soldats, je vous donne une anecdote, Napoléon un jour fait venir deux soldats qui allaient avoir la Légion d'honneur. Mais bon, c'était deux soldats de conditions intellectuelles relativement modestes. Et Napoléon dit au premier, « Je te donne la Légion d'honneur. » Et puis, au deuxième, il lui dit, « Je te fais chevalier. » La mine complètement déconfite, et l'empereur lui dit, « Mais ça ne va pas. » Non, il dit, « Je veux la croix. » Parce qu'à l'époque, on ne disait pas la Légion d'honneur, on disait la croix. Il dit, je veux la croix. Mais il lui dit, je te fais chevalier. Je m'en fiche, je veux la croix. Et finalement, on lui expliquait que quand on était chevalier, on avait de droit la croix. Mais il a fallu lui expliquer, mais voyez qu'il était prêt à sacrifier un titre de chevalier pour avoir la croix de la Légion d'honneur. Et à partir du 1er mars 1808, lorsque la noblesse d'empire va être recréée, eh bien, il y aura dans la hiérarchie, en dessous de baron, le premier échelon de la noblesse qui sera celui de chevalier, mais qui n'a rien à voir avec chevalier de la Légion d'honneur, mais c'est un autre système. Ici, voilà un autre personnage qui est quelqu'un d'excessivement connu, du moins dans la région dijonnaise, à une dizaine de kilomètres de Dijon, se trouve un petit parc qui s'appelle le parc Noiseau, à Fissin, où on fait un vin qui est tout à fait honorable, et entre autres, c'est le vignoble qui a appartenu à ce monsieur. Il s'était marié un petit peu sur le tard avec une personne qui avait une vingtaine d'années de plus que lui, mais qui avait quand même quelques hectares de vignes à apporter en dot. Donc c'était un petit peu, c'était sympathique. Bon, et voilà ici, alors, grand croix de la Légion d'honneur, là c'est Molien, le ministre, et vous voyez que il porte donc l'écharpe distinctive de la Légion d'honneur, du moins au niveau de la dignité. Voilà également, ça c'est un Dijonnais, c'est Marais, duc de Bassano, secrétaire d'État, autrement dit une sorte de ministre, de super-ministre, qui porte ici la plaque de Grand Croix de la Légion d'honneur. Il porte ici également celle d'officier, et puis il a le cordon, l'écharpe de la Légion d'honneur. Parce qu'il y a toute une codification au niveau du port de la Légion d'honneur, encore aujourd'hui, c'est excessivement contraignant, mais il y a encore des interprétations, il y a des choses bien différentes. Là, c'est un préfet qui l'a eu, le préfet de Dijon, Tocqueville, qui s'était distingué par un ouvrage sur le système parlementaire. Bon, enfin bref, peu importe. Là, également, c'est un autre Côte-d'Orien qui s'appelle Frochot, qui a été ministre de la police, qui est né à Aignel-Duc et qui a eu également la Légion d'honneur. Bon. Et là, par contre, je vais terminer, je pense, sur ce document. C'est un des 48 généraux de Napoléon qui n'a pas eu la Légion d'honneur. Il y a eu, globalement, je vais arrondir, 2500 généraux pendant la Révolution et l'Empire. Mais si l'on compte, en plus, les généraux étrangers, on arrive au chiffre de 2700. Donc, restons dans les Français, 2300. Et dans les 2300, il y en a 48 qui ne l'auront pas, dont celui-ci, qui est le père d'Alexandre Dumas, qui était un général, qui était surnommé Horatius Coclès du Tyrol, d'une force herculéenne, mais qui n'a pas eu la Légion d'honneur pour des raisons X ou Y, le pauvre homme ne l'a pas eu. Alors, je crois que c'est le dernier document. Non, voilà ce que l'on trouve parfois chez des collectionneurs, dans les familles. C'est un document qui est intéressant. Enfin, vous ne voyez pas bien, mais ici, c'est au quartier général de Finkenstein. Finkenstein, c'est une petite ville en Pologne où Napoléon établit son quartier général entre février 1807, entre les batailles d'Eylau et de Friedland, et où il a reçu sa maîtresse polonaise, Marie Walewska. Donc, au château de Finkenstein. Et, bien sûr, voilà le diplôme que l'on donnait, enfin le diplôme, si l'on veut, le ministre de la guerre, major général, prince de Neuchâtel, autrement dit, c'est signé par le maréchal Berthier, qui a signé beaucoup de documents, et on la donne au sieur Jacques Otto, etc., du 95e régiment d'infanterie de ligne. Elle lui a été donnée en 1807. Et puis celle-ci, j'ai eu la chance de trouver ce document, puisque c'est celui qui a été donné à mon ancêtre, qui était major au 16e d'infanterie légère et qui a été fait chevalier de la Légion d'honneur en l'an 14, c'est-à-dire en 1805-1806. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 48 000 légions d'honneur de données. Mais dans cette assemblée, il y a beaucoup de dames. Et certaines dames vont peut-être me dire, mais les dames sous la Légion d'honneur. Alors évidemment, là, rien à voir avec la parité chère à M. Sarkozy. Là, rien à voir, il y a eu excessivement peu de dames qui ont eu la Légion d'honneur. Mais il y en a eu quelques-unes qui étaient, tenez-vous bien, des femmes soldats. Parce qu'il y avait dans les armées des femmes que la morale réprouvait, qui distribuaient gracieusement les maladies vénériennes. Que les Français appelaient le mal de Naples et que les Napolitains appelaient le mal français. On joue au tennis déjà à l'époque. Il y avait les cantinières qui faisaient la cuisine avec leur mari, le cantinier. Il y avait les vivandières, deux par bataillon, deux pour 800 hommes pour laver les pantalons, les chemises, etc., etc. Et puis, il y avait également les blanchisseuses, je vous l'ai dit, les cantinières, les vivandières. Et il y a eu également des femmes soldats. Mais le gros problème, c'est que le palais de Salme que vous avez tout à l'heure gardait toutes les archives de la Légion d'honneur. Or, malheureusement, en 1870, il y a eu la Commune et quelques communards, puisque tel était leur nom, entraînés entre autres par le peintre Courbet, spécialiste d'une peinture qui s'appelle « La naissance du monde », a renversé la statue de l'empereur qui était place Vendôme et ont brûlé une partie des archives de la Légion d'honneur. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous retrouvez tout cela en ligne sur la base Léonore. C'est excessivement bien fait. Il n'est plus nécessaire d'aller aux archives nationales pour consulter les archives de la Légion d'honneur. Vous pouvez les retrouver. Et si vous voulez aller voir, vous écrivez Léonore, avec un E à la fin, vous allez avoir le site et vous pouvez avoir le classement par département avec une carte de France. Vous cliquez sur le 71 et sur le 71, vous allez avoir la liste de toutes les communes de votre département et ensuite vous cliquez sur la commune de votre choix et vous avez la liste de tous les gens qui ont eu la Légion d'honneur dans la commune, à condition bien sûr que le dossier n'ait pas été brûlé en 1870. Mais c'est un outil de travail assez exceptionnel. Donc, je vous le disais, il y a eu quelques femmes qui ont eu la Légion d'honneur, et sur les 48 000, eh bien, il en restait 36 000 à la fin de l'Empire qui avaient encore la Légion d'honneur. Alors, on va faire un grand bond dans le temps, et comme je vous ai parlé des différents modèles de la Légion d'honneur, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la Légion d'honneur qui est portée, qui est remise, c'est celle qu'il est en vertu du décret de 1962, signé par le général de Gaulle. Autrement dit, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui ont la Légion d'honneur doivent, je dis bien, porter ce modèle, et non pas un modèle antérieur. C'est obligatoire. c'est la règle édictée par la chancellerie. Et de Gaulle a fait rajouter au revers de la Légion d'honneur 29 floréales en 10, 19 mai 1802. Il a voulu rendre hommage à Napoléon Bonaparte en rappelant que la Légion d'honneur était une création napoléonienne. Il y en a une autre également, la plus ancienne décoration civile française actuellement, les palmes académiques, parce que les palmes académiques, c'est typiquement civil. Elle peut être donnée à des militaires, mais elle est typiquement civile. Et puis la Légion d'honneur, bien sûr, vous le savez, civile et militaire. Donc aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de la Légion d'honneur? Chaque ministre a un contingent de Légion d'honneur à donner. Il y a d'abord un contingent réservé pour le président de la République, un contingent de Légion d'honneur réservé pour le Premier ministre, un contingent de Légion d'honneur réservé pour la Grande Chancellerie. Et ensuite, chaque ministre a un nombre de Légions d'honneur à donner. Vous êtes par exemple ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour la promotion du 1er janvier, on va vous dire, vous avez 40 Légions d'honneur. 30, 40, etc. Dont, aujourd'hui, 20 pour les messieurs, 20 pour les dames. En règle générale, la demande est faite par un parlementaire, par un ministre, par un homme politique qui fait remplir un dossier de Légion d'honneur. Et ensuite, il y a dans votre dos ou de face, c'est variable, une enquête de police, de gendarmerie et des services fiscaux pour voir si vous payez bien vos impôts, etc., etc. Ensuite de cela, on vous envoie un papier en vous demandant si vous acceptez de recevoir la Légion d'honneur. Donc quand les gens disent « je l'ai eu mais je ne le savais pas », ça n'est pas vrai. Parce que vous êtes obligé aujourd'hui, pour éviter un camouflet qui consiste à ce que l'on vous dise comme Hector Berlioz, parce qu'on lui devait 1500 francs pour un morceau de musique et l'État ne l'avait jamais payé, il avait dit « puisque c'est comme ça, je préfère mes 1500 francs que la Légion d'honneur ». Donc pour éviter qu'il y ait un camouflet, eh bien les gens acceptent de recevoir la Légion d'honneur. Donc ils le savent. Et bien sûr, il faut que vous donniez le parcours de vos activités depuis vos études secondaires jusqu'au moment où votre dossier est présenté. Pour l'anecdote, sachez qu'il y a actuellement en France 15 000 dossiers en attente. Il y a 15 000 dossiers en attente. Le chiffre de mémoire, je crois que le contingent fixé par De Gaulle en 62 doit être de 125 000. Je parle sous le contrôle. Oui, ça doit être 125 000. Et par contre, il n'y en a que 92 000 ou 93 000 actuellement. Donc on est loin, si vous voulez, d'avoir rempli les quotas. Et bien sûr, après, c'est le ministre, avec son aréopage de conseiller, qui distribue, oui ou non, la Légion d'honneur. Ensuite, bien sûr, vous êtes informé de manière officielle, mais vous ne pouvez la porter qu'après qu'elle vous a été remise. Pardon ?
Je fais une réserve. Parce que...
Oui ?
Oui, 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 je fais une réserve. Je fais une réserve.
Pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis donc le général Cheminal, je suis le président de la Société des membres de la Légion d'honneur pour le département. Alors, pardonnez-moi, je vais vous contredire. Nul n'est légionnaire s'il n'est présenté par un ministre. C'est exact. Les ministres ont un contingent. Voilà. Ils présentent le dossier, ils ne donnent pas la Légion d'honneur. Ils présentent le dossier au Conseil de l'Ordre. Et c'est le Conseil de l'Ordre qui décide. Ce Conseil de l'Ordre est constitué de 18 personnes, de 18 personnalités qui sont incontestables. C'est présidé par le grand chancelier qui est actuellement, qui est effectivement un ancien chef d'état-major des armées, qui a pour caractéristique, comme il n'a plus d'ambition, il n'a pas d'ambition politique, il n'a rien, il est inaltérable, inoxydable, insensible à toute pression, ce qui fait que ce Conseil de l'Ordre reçoit les dossiers des ministres. Pour 2014, les ministres ont transmis, je vous donne les chiffres en gros, 3500 dossiers. Sur ces 3500 dossiers, le Conseil de l'Ordre en a rejeté 500. C'est-à-dire que ce n'est pas une chambre d'enregistrement. C'est réellement, on examine, on pèse les mérites éminents, parce que, comme vous l'avez très bien dit, la Légion d'honneur, c'est la même, celle du grognard ou celle du savant, actuellement. C'est la même de comment pour Zinedine Zidane ou pour le général Cheminal. Voilà, il n'y a qu'une Légion d'honneur. Donc je continue. 3500 dossiers qui sont arrivés devant le Conseil de l'Ordre. 500 ont été rejetés par le Conseil de l'Ordre. 200 ont été retirés par les ministres eux-mêmes. Pourquoi ? Ben, sans doute à cause des enquêtes.
Des enquêtes.
Parce que ben, il faut être honorable hein, pour recevoir la Légion d'honneur. Et à l'issue de cela, c'est le grand maître de l'ordre, le président de la République, qui signe le décret d'attribution. Voilà.
Alors, merci de cette précision.
Je vous reprends aussi un tout petit peu sur un truc, parce que tant qu'à faire, il ne fallait pas me donner le micro. Enfin, j'ai pris le micro, mais... Je m'inscris en faux. On ne signe rien pour la Légion d'honneur. On ne signe pas l'acceptation de la Légion d'honneur. Le dossier, il est fait par quelqu'un. Il passe par le préfet hein, dans un département, mais ça peut être directement d'un cabinet du ministre, ça peut être par une administration, ça passe voilà. Mais l'intéressé ne signe rien, je vais aller plus loin pour vous dire que l'intéressé ne sait pas.
Mais écoutez, mon général, moi j'ai signé.
Vous avez signé? Non, vous avez signé pour vous la faire remettre. Une fois que vous étiez paru au décret.
C'est ça.
Ah non, c'est totalement. Vous étiez déjà paru au décret. Le président avait déjà signé.
Mais c'est ce que je
vous
disais.
Vous attribuant la Légion d'honneur. C'est pas ce que vous avez dit exactement. On se la fait remettre. Après.
C'est un lapsus.
Mais oui. On est déjà nommé par le préfet. Hein, par le président, pardon.
On va le laisser finir peut-être.
Oui, je redonne.
Non, non, mais ça me fait tout drôle d'avoir une joute oratoire avec un général, moi qui étais deuxième classe contestataire à l'armée. Et j'ai fait mon service en 1969, comme aurait dit la Palice, un an après mai 68, et on s'amusait très bien à l'armée en écrivant des tas de choses marrantes dans les registres de l'ordinaire, puisque tous les jours on devait marquer des appréciations sur ce que l'on mangeait, et on écrivait des appréciations du genre repas apprécié chez les Mérovingiens ou des choses comme ça. Donc forcément, ça ne plaisait pas tout à fait à tout le monde. Bon, alors, bah écoutez, j'en arrivais juste à la fin, puisque une bonne conférence ne dure jamais une heure, avec le soutien du général, dont je sais gré, pour cette précision. C'est vrai que je suis allé peut-être un petit peu trop vite. Vous avez tout à fait raison, le document que l'on signe, c'est le document pour la remise. Mais à ce moment-là, de facto, on sait que votre dossier a été accepté. Voilà comment ça se passe. Et puis, bien sûr, là, je pense que nous serons d'accord, la Légion d'honneur ne peut être remise que par quelqu'un qui a au moins le même grade que vous dans l'ordre de la Légion d'honneur. Si on vous donne la cravate de commandeur, il faut que ce soit un commandeur lui-même qui vous remette la Légion d'honneur. C'était déjà pareil sous le Premier Empire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette institution qui a été créée il y a deux siècles, eh bien, a traversé tous les régimes politiques de la France et demeure aujourd'hui quand même l'une des décorations les plus symboliques, les plus enviées, parce que, tout simplement, elle est alliée à un nom qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais qui me plaît à moi et à vous, à Napoléon. Je vous remercie de votre écoute. Cela dit, il y a peut-être une ou deux questions, ou je ne sais pas. Ah, il y a une dame tout au fond. Attendez, madame.
Merci. Bon. Bonsoir. J'aurais voulu avoir des précisions sur le nombre de villes comme Châlons qui ont eu la Légion d'honneur.
Oui, alors, Châlons, bah écoutez, ça c'était normal de garder ça dans le cadre des discussions. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Napoléon revient de l'exil de l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Il évite de prendre la vallée du Rhône, trop royaliste, et il passe par le Dauphiné. Le 12, il est à Lyon, il prend ses premiers décrets, et ensuite, bien sûr, de Lyon, il traverse la Saône-et-Loire. Hein, il va passer, entre autres, tout près de Châlons, il va passer à Mercurey, entre autres. Bon, ça, c'est l'anecdote vineuse dont je vous ai parlé. Et, comme monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, il y a eu une résistance armée de la part des Chalonnais un an avant contre les troupes du général autrichien Bubna. Donc Napoléon a été informé de cela. Il sait que la ville de Tournu, la ville de Chalon-sur-Saône et la plus petite ville, qui est en Côte d'Or, celle-ci, de Saint-Jean-de-Laune, ont résisté manu militari aux troupes autrichiennes. Et Napoléon va donc décider, dans un décret qui est publié dans le bulletin des lois de la République française, autrement dit dans l'équivalent du journal militaire, que la ville de Chalon-sur-Saône, de Tournu et de Saint-Jean-de-Laune serait autorisée à avoir l'aigle impérial dans les armoiries. Alors, l'aigle impérial, ça voulait dire sous-entendu que c'était l'aigle de la Légion d'honneur. Mais il est bien évident qu'avec le retour des Bourbons, qui se fait à partir, Napoléon abdique une deuxième fois, le 22 juillet 1815, il va falloir attendre la monarchie de Juillet et le roi Louis-Philippe pour que le décret soit ressorti des cartons. C'est la raison pour laquelle les Légions d'honneur qui ont été attribuées à ces villes-là ne sont pas des Légions d'honneur de type Premier Empire, mais sont des Légions d'honneur plus tardives, ce qui n'enlève rien. Et donc, il y aura trois villes, les trois premières villes de France à avoir eu la Légion d'honneur. Ce sont deux villes de Saône-et-Loire, une bourgade de Côte d'Or, et puis, autrement dit, trois villes de Bourgogne. Dijon aura la Légion d'honneur, mais c'est pour les combats de 1870. Et aujourd'hui, il y a ces 64 villes. Je crois que la dernière, c'est Alger, me semble-t-il. Il y a donc 64 villes qui ont la Légion d'honneur en tant que ville. Alors, il y a des régiments qui ont la Légion d'honneur, bien sûr. Il y a des écoles militaires qui ont la Légion d'honneur. Et puis, bien sûr, il y a des particuliers qui ont la Légion d'honneur. Voilà. J'espère avoir répondu, madame, à votre question.
Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si un citoyen qui n'a pas accompli son service militaire et qui a été objecteur de conscience peut recevoir la Légion d'honneur, s'il vous plaît.
Aujourd'hui ?
Oui.
Alors, on va poser la question générale.
Oui, il n'y a aucun problème s'il est honorable. C'est pas le fait d'avoir été objecteur de conscience, c'est ce qu'il a fait après. Il peut avoir eu après une vie, même syndicale, puisqu'il y a certains syndicalistes sont légionnaires, mais parce qu'il a rendu des services après à la nation. Bon, il a été objecteur de conscience. Bon, ok, c'est passé, mais c'est pas un élément déterminant du tout.
Non, il suffit que les critères de moralité, police, gendarmerie, fiscalité, soient remplis. Bon.
Et de mérite éminent.
Et les mérites éminents, bien sûr, puisque l'Ordre national du mérite, c'est pour les mérites distingués. C'est un petit peu différent au niveau de la terminologie.
Merci, bonsoir. Je me sens parfois froissée quand on distribue la Légion d'honneur à des amuseurs publics. Je trouve que ce n'est pas une décoration.
Pardon, quand on distribue, hein ?
À des amuseurs publics.
Oui.
Voilà. Dernièrement, il y a une artiste que je considère comme une rigolote. C'est tout. Dans le sens non pas péjoratif, mais le sens amusant. Et je trouve que c'est du galvaudage que de donner cette décoration dans ces conditions-là. Voilà, je ne suis pas très tolérante, mais oui. Mes aïeux l'ont gagné au feu, je trouve un peu humiliant de voir
alors
des gens
vous,
comme
madame,
ça la recevoir.
Vous vous rapprochez plus de la position du général Mathieu Dumas qui disait « la Légion d'honneur, c'est pour les militaires ». Il est bien évident, madame, qu'en 1802, dans l'esprit de Napoléon, la Légion d'honneur, c'est pour les militaires, c'est pour les civils. Vous allez même avoir le cardinal du Bellois, cardinal de Paris, Notre-Dame de Paris, qui l'aura. Vous allez avoir des ministres qui vont l'avoir, etc. Il est bien évident qu'à cette époque-là, le concept de, entre guillemets, amuseur public ou artiste ou ce que vous voulez, n'existe pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a eu une législation qui est faite de telle manière que ce sont les contingents ministériels qui attribuent la Légion d'honneur. Et le ministère de la Culture a sa décoration propre, puisque le ministère de la Culture, le ministre de la Culture peut donner les arts et les lettres, qui est une décoration spécifique. Mais il est évident que vous avez une équipe de France qui gagne la Coupe du Monde de football, on colle la Légion d'honneur à tout le monde. Bon, mais à partir du moment où le ministre des Sports, eh bien, et puis il y a également des volontés politiques qui viennent de très très haut et qui décident que...
Non, mais, sur les artistes, la polémique a existé depuis 200 ans. Par exemple, la première femme officier de la Légion d'honneur était une certaine Rosa Bonheur, qui était peintre, mais qui était aussi une féministe, contestataire, etc., etc. Bon, on aurait pu dire par rapport aux grognards, etc., mais non, elle a été décorée. Et c'est dans la même lignée. Enfin, moi, Danny Boone est légionnaire. Ça me gêne pas, je sais pas. Son film, finalement, qu'est-ce qu'il prêche, hein, il prêche quand même de belles valeurs, hein, d'accueil. Alors après, bon, bah, les artistes, le Conseil de l'Ordre pèse les mérites éminents. Et pour peser entre un artiste et un scientifique, nul ne s'y risque. Bon, voilà, bon, bah, ça ne me choque pas, hein, qu'une artiste, au contraire, je la félicite et je suis content pour elle que la Légion d'honneur est universelle. Donc, toutes les strates de la société, tous les ministres, propose des gens, et dans la société française il y a des artistes, et ben c'est bien qu'ils soient aussi eux aussi reçoivent des mérites éminents. Alors il y en a pas beaucoup, hein. C'est pour ça que chaque fois ça fait la une, hein. On parle pas des il y en a 2900 l'an dernier, on parle pas de 2880. On n'en parle pas, hein. Mais alors il y en a une dizaine, c'est les journalistes, les machins, Monsieur Thomas Piketty dernièrement, bon, je l'allume ou pas? Enfin, non, bon, allez.
Également une petite chose que je voulais ajouter, les étrangers, bien sûr, peuvent également recevoir la Légion d'honneur, mais attention, ils ne font pas partie de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est bien cela, ils sont légionnaires ou officiers ou commandeurs, mais ils ne font pas partie de l'ordre parce qu'ils sont étrangers. Donc, c'est une petite distinction qui existe, mais bien sûr, elle peut être remise à des étrangers. Il n'y a pas de problème, que ce soit des artistes, des scientifiques. Et puis également, une autre chose, c'est qu'un politique en activité, un député, un sénateur, un ministre, ne peut pas recevoir la Légion d'honneur quand il est en activité dans le cadre d'un mandat ou d'une activité ministérielle. Parce qu'autrement, je te présente pour la Légion d'honneur, tu me présentes pour ceci, etc. Non, on peut le devenir après, ou on peut l'avoir été avant, mais pas pendant son activité. Donc ce sont, si vous voulez, là, ce sont des choses qui concernent la Légion d'honneur actuellement.
Et le président,
pardon ?
Le président le devient-il automatiquement ?
Ah oui, monsieur. Le président de la République est le grand maître de la Légion d'honneur, automatiquement. Je ne sais pas si vous avez regardé l'intronisation, j'ai regardé parce que ça m'intéressait beaucoup. Lorsque M. François Hollande est allé à l'Élysée après, donc, quand il y a eu la cérémonie officielle, il est arrivé en costume et il est ressorti avec un autre costume et immédiatement, sur l'autre costume, il y avait les insignes distinctifs sur le revers. Parce que il devient obligatoirement grand-maître de la Légion d'honneur et donc Nicolas Sarkozy, tous les anciens Jacques Chirac, tous les anciens présidents de la République sont également membres de la Légion d'honneur de droit.
Vous retrouvez d'ailleurs dans les portraits de certains chefs d'État illustres le port de la Grande Croix de la Légion d'honneur.
Oui, jusqu'au général de Gaulle, les représentations présentaient le président de la République, Pompidou aussi, oui, jusqu'à Pompidou. Après, Giscard d'Estaing, c'était un drapeau tricolore, etc. Bon, c'est une autre symbolique. Mais les présidents de la République, oui, ça fait partie des traditions françaises. De même qu'un premier ministre qui était ministre 2 ans est obligatoirement commandeur de l'ordre du mérite quand il a été 2 ans en exercice. Ce sont des règles. De même que le ministre de la Culture est obligatoirement, quand il quitte, commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, le ministre de l'Éducation nationale, commandeur des Palmes académiques, le ministre de l'Agriculture, commandeur de l'ordre du Mérite agricole, plus connu sous le nom de Poirot, etc. Donc ça fait partie, si vous voulez, des textes officiels.
Est-ce que l'on peut retirer la Légion d'honneur et qui peut le faire ?
Oui, monsieur. La Légion d'honneur peut être retirée à des personnes qui auraient commis une infraction infamante ou un crime infamant ou des choses de cette nature, à partir du moment où la moralité de la personne est atteinte, eh bien, à partir de ce moment-là, la grande chancellerie peut très bien retirer la Légion d'honneur. Ça arrive tous les ans, il y en a très peu en règle générale, mais c'est tout à fait quelque chose qui est possible.
Pendant la période de Vichy, il y a eu la Légion d'honneur ?
Pendant la période de Vichy ?
Oui.
Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de Légions d'honneur. Là, très honnêtement, l'histoire de France, moi, j'ai tendance à m'arrêter en 1815. Hein. C'est une mauvaise habitude. Et puis, Vichy, je trouve que le régime alimentaire, entre l'eau minérale et les carottes, c'est pas ce qu'il y a de terrible. Hein. Mais toute boutade mise à part, je ne sais pas si Vichy... Vous avez une idée, mon général, est-ce qu'il y a eu des Légions d'honneur de distribuer pendant la période vichysoise.
Alors, si vous me posez la question, pour la Légion d'honneur, au moment où les Allemands ont débarqué en France, la grande chancellerie a déménagé, mais il y a eu sous Vichy une grande chancellerie de la Légion d'honneur qui a donné des Légions d'honneur. Alors, c'est resté... Si vous voulez, ça fait pas partie des pages glorieuses de la République, et etc. Donc, on en parle très très peu. Pour l'anecdote, on a parlé tout à l'heure du collier de grand maître. Ce collier du grand maître de la Légion d'honneur, qui est celui du président de la République, comporte des médaillons. Derrière chaque médaillon, est inscrit le président de la République. Successivement, il doit rester encore 7 ou 8 cases, je crois, disponibles sur le... La première chose qu'a fait le général de Gaulle en rentrant, c'est qu'il a fait gratter Pétain sur le collier. Et il y a une de ces plaques qui a été rectifiée. Donc la Légion d'honneur n'a pas existé sous l'État français. Allez.
Auriez-vous d'autres questions ?
Non, madame.
Quand on a eu la Légion d'honneur, est-ce qu'on peut la porter comme on veut, où on veut ?
Pour la porter ?
Oui, la porter.
Alors, la porter, la règle, c'est que si vous avez la Légion d'honneur, vous pouvez porter tous les jours, librement, le petit ruban rouge si vous êtes chevalier, la rosette si vous êtes officier, le canapé si vous êtes commandeur, enfin, c'est un terme, etc. Là, oui, bien sûr. Par contre, porter la Légion d'honneur pendante, c'est-à-dire le modèle de base, ça se porte dans des cérémonies officielles, dans des, aux monuments aux morts ou dans certaines cérémonies officielles. Maintenant, il y a également une tolérance qui fait que l'on peut porter dans des soirées, sur un smoking, les réductions de décoration. Vous pouvez les porter en parce qu'il y a le grand modèle, ce qu'on appelle le modèle d'ordonnance, et le petit modèle en réduction. Donc il y a d'ailleurs un courrier de la reine d'Angleterre qui autorise, parce que le smoking est, un accessoire britannique, et elle a autorisé en France le port de décoration sur un smoking. Par contre, sur un smoking, vous ne mettez pas la Légion d'honneur en grand modèle, mais uniquement en réduction. Et puis, en règle générale, si vous avez un par-dessus ou autre, vous ne mettez pas la Légion d'honneur sur un manteau. Vous ne la mettez que sur un veston. Et ensuite, si vous avez la Légion d'honneur et que vous êtes fait, que vous avez après, mettons, les palmes académiques, eh bien, vous ne mettrez pas les deux. Vous ne mettrez simplement que le ruban de la Légion d'honneur. Par contre, si vous êtes fait officier des palmes académiques, là, vous pourrez porter le ruban de la Légion d'honneur et officier de des palmes académiques. Mais si demain, vous êtes fait à nouveau officier de la Légion d'honneur, vous enlèverez officier des palmes académiques, parce que, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Donc, il y a, si vous voulez, une sorte de code qui est déterminé par la grande chancellerie, et puis qui est, en règle générale, respecté par tous les récipiendaires. Bon, parfois, il y a des petites entorses au règlement. Moi, parfois, j'en ai trouvé une qui est assez sympa, ce qu'on appelle un bijoutier, une Légion d'honneur bijoutier, beaucoup plus jolie, fabrication 3e République. Parfois, je la mets au lieu de mettre celle qui est actuellement le modèle réglementaire. Mais bon, ça, personne n'est jamais rien venu me dire à ce sujet-là.
Bien, mais si vous n'avez plus de questions, je pense que nous allons remercier Monsieur Pijard en vous indiquant également qu'il a quelques-uns de ses ouvrages, puisqu'effectivement, historien spécialiste de la période napoléonienne, il a pas mal écrit, donc il a certains de ses ouvrages en vente à côté.
Si vous... Alors, je voulais vous parler également, puisque nous sommes en Bourgogne, en Saône-et-Loire, du Souvenir napoléonien, qui est une association d'histoire, et ce n'est pas un parti politique, j'insiste bien, c'est une association d'histoire reconnue d'utilité publique par décret de 1987. Donc, nous faisons de l'histoire, ça ne s'adresse pas du tout à des universitaires, ça peut s'adresser à des universitaires, mais les membres du Souvenir napoléonien, ce sont des gens qui sont sensibilisés par l'histoire napoléonienne. On ne leur demande pas du tout de faire ceci, cela. Il y a bien sûr des conférences qui sont à Dijon. Le jour où il n'y en aura plus en Saône-et-Loire, je me déplacerai ou je pourrai venir en faire ici à Chalon-sur-Saône. Je pense que ce sera possible. Merci Monsieur le maire d'avance dans cette belle salle. Et dans le cadre de l'adhésion, vous recevez 5 exemplaires d'une revue magnifique. Vous pourrez regarder les exemplaires là-bas. Donc, à titre indicatif, la cotisation annuelle comprenant les 5 numéros de la revue, 60 euros. En couple, 70 euros. Avec la revue, maintenant, vous pouvez très bien adhérer au Souvenir napoléonien sans prendre la revue, c'est 35 euros en individuel. Mais autrement, 60 avec la revue, quand vous verrez la qualité, rien que la revue, elle est vendue 15 euros à titre individuel. Bon, autrement dit, si vous la prenez en individuel, ça vous coûte moins cher que d'acheter les numéros. Bon, enfin ça, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a des colloques qui sont faits, des expositions, des voyages nationaux. Et j'en profite pour vous dire que si le personnage Napoléon vous intéresse, eh bien, regardez mardi sur France 2 le prochain Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Comment devient-on Napoléon ? Et si vous regardez bien, vous me verrez dans l'émission.